L'heure de retrouver le journal de la rédaction et Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Depuis ce matin et jusqu'à dimanche, les Russes sont appelés à voter pour élire leur président.
Oui, ou plus exactement à réélire l'inamovible Vladimir Poutine, lequel fait face à trois candidats sans aucune envergure. Nous serons en direct de Moscou dès le début de ce journal. Et puis on s'intéressera à l'organisation de ce simulacre de scrutin dans les territoires ukrainiens occupés aujourd'hui par la Russie. Un nouveau Premier ministre pour les Palestiniens hier soir, le président Mahmoud Abbas, critiqué et affaibli dans la perspective de l'après-guerre à Gaza, a nommé l'un de ses fidèles à la tête du gouvernement. L'actualité en France, c'est tout d'abord un anniversaire, les 20 ans de la loi encadrant le port de signes religieux dans les écoles. On en parlera avec notre invité aujourd'hui, Dominique Schnapper, présidente du Conseil des sages de la laïcité de l'éducation nationale. Enfin, on détaillera cette promesse d'achat signée ce matin par le groupe de transport maritime CMA-CGM en vue de l'acquisition de la totalité du capital d'Altice Média, maison mère, notamment de BFM TV et RMC. La chronique d'un plébiscite annoncé en Russie. Ce matin, les habitants de l'Extrême-Orient ont été les premiers à commencer à voter pour l'élection présidentielle qui, en l'absence d'opposition, devrait offrir sur un plateau un cinquième mandat à Vladimir Poutine, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs le maître du Kremlin, bien qu'assuré d'un nouveau sacre, d'inciter dès hier la population à faire preuve, je cite, de patriotisme et de ne pas se détourner du chemin, une manière à peine voilée donc d'appeler à sa propre réélection pour un moment de célébration collective, comprenez un score triomphal afin de légitimer son régime. Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Moscou. Alors ce scrutin est prévu pour durer jusqu'à dimanche. Et dans un système sans alternative politique, le résultat du vote est déjà couru d'avance. Il n'empêche, Sylvain, qu'après 24 années au pouvoir, Vladimir Poutine a besoin toujours et encore de cette simulation pour se voir confirmer sa popularité.
Oui, et on connaît déjà le niveau de cette popularité d'ailleurs. Les derniers sondages officiels lui accordent 80-82%. Ce devrait donc être le score de Vladimir Poutine dimanche soir. Pour le pouvoir, l'objectif de cette élection, c'est de donner l'image d'une Russie unie et surtout absolument pas affectée par la guerre en Ukraine, dont il n'a d'ailleurs pas été question lors du semblant de campagne électorale. Alors évidemment, ce matin, à l'ouverture des bureaux de vote, il y a bien eu quelques couacs que le régime ne voudrait pas voir, comme cette femme qui a déversé de l'encre verte dans une urne à Moscou. Elle a été arrêtée dans la région de Belgorod, qui est régulièrement bombardée. En ce moment, les assesseurs portent des casques et des gilets pare-balles dans les bureaux de vote, mais le pouvoir tient cette élection d'une main ferme et a tout un tas de moyens de museler l'opposition, comme me l'a expliqué par exemple un moscovite opposant à Vladimir Poutine.
Au départ, je voulais venir en personne au bureau de vote pour écrire des slogans anti-guerre sur mon bulletin. Mais je suis dans une situation particulière. Les salariés des organisations publiques sont obligés par leurs employeurs de voter par voie électronique. Donc, pour ne pas avoir de problème, je voterai par vote électronique pour Davankov.
Vladislav Davankov, le plus modéré des trois concurrents de Vladimir Poutine sur le sujet de la guerre en Ukraine, qui sera probablement le refuge électoral de beaucoup d'opposants, mais les sondages ne lui accordent guère plus de 5 ou 6%.
Merci Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Alors on l'aura compris, le vrai et seul enjeu au fond de cette élection sera de mettre en scène un déroulement du scrutin sans accroc et notamment dans les régions annexées d'Ukraine, là où depuis le début de l'occupation, près de 3 millions de personnes ont dû prendre de gré ou de force un passeport russe. Les précisions depuis Kiev de notre correspondant Camille Magnard.
Dans plusieurs secteurs occupés par la Russie, l'élection présidentielle a déjà commencé fin février, assure Oleksandr Tolokonikov. Il est le porte-parole de la région ukrainienne de Kherson, dont plus de la moitié est sous occupation.
Les Russes sont arrivés au centre des villages, ils ont installé des urnes, ils ont fait voter les collabos, les fonctionnaires et les retraités. Le deuxième jour, il n'y avait plus personne. Alors ils ont pris les urnes et ont commencé à aller chez les gens, accompagnés par des hommes armés. Ils entraient dans chaque maison et proposaient aux gens de voter.
Sous la menace des armes russes, les habitants des régions occupées n'ont pas d'autre choix que de participer à ce simulacre d'élection, reconnaît-on à Kiev. Mais ceux qui collaborent à l'organisation du scrutin seront considérés comme des traîtres, prévient le colonel Andriy Tcherniak du renseignement militaire ukrainien.
Le Kremlin a donné l'ordre que le scrutin se termine sur un score de 75 à 80% en faveur de Poutine. On sait aussi que les collabos ukrainiens ont décidé d'aller au-delà de ce score et de faire en sorte que le soutien à Poutine atteigne 85 à 90%.
Pour sécuriser cette élection écrite à l'avance, Moscou a dépêché dans les régions occupées des milliers d'agents de ses forces de sécurité. Mais à Kiev, le colonel Tcherniak compte tout de même sur des groupes de résistants de l'intérieur pour tenter de faire dérailler le scrutin.
Après la dernière conférence de soutien à Kiev, organisée à Paris, laquelle s'était soldée par un éclat, Emmanuel Macron et Olaf Scholz n'auront sans doute pas trop d'un tête-à-tête aujourd'hui pour lever les malentendus. Les deux hommes doivent s'entretenir à la chancellerie à Berlin. Ils seront ensuite rejoints par le Premier ministre polonais, Donald Tusk. Une entremise plutôt bienvenue, tant l'ancien président du Conseil européen est habitué à conjuguer les intérêts contradictoires. Alors hier soir, déjà à la télévision, le président français aura tenté de rassurer sur sa stratégie de soutien à Kiev, après avoir semé le trouble sur l'envoi de troupes au sol. Il faut être prêt à répondre à l'escalade russe, mais jamais nous ne mènerons d'offensive, a précisé le chef de l'État. Une manière aussi pour Emmanuel Macron, attentif à l'opinion, à l'approche des élections européennes, de jouer les conciliateurs tout en marquant l'entrée en campagne de son camp, et ce même si le chef de l'État récuse les accusations d'opportunisme électoral.
Les groupes de niveau en français et mathématiques au collège doivent pouvoir évoluer au cours de l'année.
Déclaration signée ce matin de la ministre de l'Éducation qui précise « Ces groupes ne seront pas figés et il reviendra à chaque chef d'établissement de mettre en œuvre ce brassage en fonction de la réalité de son établissement » ou quand Nicole Belloubet cherche les mots pour calmer la colère du corps enseignant et par ailleurs se défend ainsi d'être sous la tutelle du chef du gouvernement Gabriel Attal. Alors il se trouve que ce matin la ministre était en déplacement au lycée Diderot dans le 19e arrondissement de Paris. L'occasion de parler d'un tout autre sujet, la laïcité, et ce, le jour même du 20e anniversaire de la loi encadrant le port de signes religieux dans les écoles. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Vous êtes sur place avec la ministre qui a donc pointé ce matin, Hakim, une hausse des contestations du contenu de certains enseignements et annoncé plusieurs mesures pour y faire face.
Oui, Thomas, si le port de signes et les tenues religieuses ont fortement baissé, ils ont été divisés par 10 par rapport au mois de décembre, où les atteintes à la laïcité avaient connu un pic avec 590 cas. Désormais, ces atteintes à la laïcité se stabilisent avec 336 cas en février. Mais ce qui est inquiétant, Thomas, c'est de voir que désormais, ce sont les suspicions de prosélytisme et les contestations d'enseignement qui arrivent en tête avec respectivement 20% et 16% des cas, comme nous le confirme Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation.
On se rend compte que le contenu même des enseignements est parfois contesté. Et au fond, c'est la distinction entre le su et le cru. Certains élèves pensent que ce qu'ils croient est la manifestation de la vérité, alors que ce sont les savoirs scientifiques, évidemment, qui doivent l'emporter. Et ce sont d'autres atteintes à la laïcité qui se traduisent de cette manière-là, parce que moi, je suis intimement persuadée que seule la laïcité dans nos écoles permet de vivre ensemble.
Alors pour tenter d'inverser la courbe, la ministre de l'Éducation a donc confirmé ce matin la mise en place de cellules d'accompagnement pédagogique afin de mieux outiller les enseignants, notamment lorsqu'ils doivent aborder certaines parties qui pourraient être sensibles dans les programmes. On pense bien sûr à l'histoire-géographie, mais encore aux sciences, avec également la possibilité d'avoir un co-intervenant dans certains cas avec une deuxième personne qui pourrait intervenir dans la classe. Mais pour faire baisser les atteintes à la laïcité, l'enjeu sera également celui de la formation des enseignants. 500 000 d'entre eux ont été formés à laïcité. Cité, la ministre espère atteindre les 1 million de professeurs d'ici 4 ans, soit l'intégralité du corps enseignant.
Alors, on l'aura compris, l'école et la laïcité est un sujet qui ne quitte jamais véritablement l'actualité, en dépit donc de cette loi sur l'interdiction du port de signes religieux qui, depuis 20 ans, est venue pourtant clarifier la situation, sauf que son principe comme ses modalités continuent de susciter de profondes divisions. Hakim Kasmi, vous êtes toujours dans le 19e arrondissement de Paris, avec cette fois-ci à vos côtés Dominique Schnapper, sociologue, directrice d'études à l'EHESS et présidente du Conseil des sages de la laïcité de l'éducation nationale. Elle est aujourd'hui l'invitée de la rédaction.
Oui, Dominique Schnapper, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, on l'a vu ce matin, si le port des signes religieux ont fortement baissé depuis la loi il y a 20 ans, de 2004, est-ce que vous n'êtes pas inquiète quand vous voyez qu'aujourd'hui, eh bien on l'a appris ce matin notamment, que par exemple, tout ce qui concerne l'enseignement est fortement contesté?
Ce qui est frappant, c'est d'une part le succès qu'a eu la loi de 2004, qui a fait baisser immédiatement beaucoup des problèmes qui étaient soulevés à l'époque, et qui a permis, par son application ensuite à d'autres problèmes, par exemple à régler l'inquiétude qu'il y avait sur le développement des abayas par une simple circulaire d'application de la loi. Donc c'est une loi de portée universelle et qui a résolu beaucoup de problèmes, en particulier pour les chefs d'établissement qui avaient des dispositions à prendre, des responsabilités concrètes à adopter. Mais en même temps, ça n'est jamais les lois sont essentielles, mais elles ne résolvent pas tous les problèmes. Et les résultats obtenus grâce à cette législation ne sont pas acquis une fois pour toutes. Ils demandent toujours à être explicités, expliqués, diffusés et appliqués à des situations nouvelles qui se présentent. Et donc, c'est cette double dimension que nous avons évoquée ce matin, à la fois l'histoire de cette loi et tous les avantages qu'elle a apportés, et en même temps le fait que d'autres problèmes se présentent et doivent être résolus.
Alors justement, on le voit, d'après une étude du ministère de l'Éducation nationale, au moins un enseignant sur deux s'autocensure, notamment lorsqu'il faut aborder certaines parties du programme. Alors il y a bien sûr l'histoire géo, les sciences, mais pas que, car aujourd'hui on voit que la contestation peut concerner aussi, par exemple, la musique, ou voire même le sport. Comment vous expliquez aujourd'hui, entre guillemets, ces faits ?
Ben, il y a des mouvements politiques successifs qui adoptent des objets successifs, et le problème des vêtements qui marquaient d'une manière ostensible l'appartenance à une religion est à peu près résolu. Et du coup, il y a des atteintes à la laïcité qui se portent sur d'autres objets. Et en particulier, le contenu des cours. Mais ça n'est pas nouveau. Il est nouveau qu'il soit d'actualité, mais il y a des années qu'on sait que certains sujets sont extrêmement difficiles à aborder, comme vous l'avez dit, en histoire-géographie, mais pratiquement dans toutes les matières, parce que la musique pose des problèmes, les sciences de la vie posent aussi des problèmes lorsque certains élèves opposent au savoir qui est dispensé par l'école avec un E majuscule, les croyances qui sont issues de telle ou telle religion ou système de croyances en général, d'ailleurs pas nécessairement religieux. Et donc il y a vraiment un combat à mener à tous les niveaux, du ministre à tous les professeurs. Et étant donné les drames qu'il y a eu autour de l'enseignement, on comprend que beaucoup de professeurs soient dans des conditions qui font qu'ils abordent avec difficulté, ou plutôt qu'ils cessent d'aborder un certain nombre de problèmes qui pourraient conduire à ce à quoi on a assisté, c'est-à-dire à des assassinats de professeurs.
Alors justement, comment mieux accompagner ces enseignants qui parfois peuvent se sentir isolés, seuls face à leurs élèves dans leur classe? Alors j'imagine que l'enjeu de la formation est également très important aussi pour mieux armer les enseignants.
Bien, la formation, comme vous le dites, est essentielle. Elle doit être à la fois une formation intellectuelle pour comprendre ce dont il s'agit, pourquoi certaines dispositions sont adoptées, sur quel fond intellectuel et sur quel fond politique se fondent les décisions de la laïcité. Dans les générations précédentes, cela allait de soi. On n'avait pas besoin de l'enseigner. Maintenant, il y a, semble-t-il, une rupture générationnelle qui rend nécessaire la formation à la fois du pan au moment du recrutement et la formation permanente. Et il y a tout un programme de formation que la ministre a évoqué ce matin qui touche maintenant près de la moitié des enseignants et dont on espère que dans les deux années, ils auront touché l'ensemble des enseignants pour avoir une certaine formation autour de la laïcité.
Merci beaucoup, Dominique Schnapper. Je le rappelle, vous êtes la présidente du Conseil des sages de la laïcité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et on retrouve tout de suite à la maison de la radio Thomas Cluzel pour la suite du journal.
Et merci également à vous, Hakim Kasmi, ainsi qu'à Olivia Branger pour les moyens techniques.
C'est aujourd'hui la troisième plus grande compagnie de transport de conteneurs au monde et le groupe ambitionne à présent de constituer un pôle média de référence.
Oui, CMA CGM, basé à Marseille, propriété du milliardaire Rodolphe Saadé, a annoncé ce matin avoir signé un accord pour acheter Altice Média, la maison mère notamment de BFM TV et RMC, pour 1,5 milliard d'euros. Azaïs Perronin, bonjour.
Bonjour.
L'armateur qui possède déjà La Tribune, La Provence et Corse Matin consolide ainsi un peu plus encore le groupe de presse qu'il est en train de constituer.
L'hypothèse circulait depuis plusieurs mois, mais c'est ce matin qu'elle est devenue effective. Le pôle média d'Altice passera sous pavillon marseillais à l'automne prochain, a annoncé le directeur de la rédaction d'RMC à ses équipes. On passe d'un milliardaire à un autre, constate une journaliste pour le moins perplexe, et qui se demande, je cite, quel est le plus inquiétant des deux. La raison principale de cette vente est l'endettement du propriétaire et fondateur d'Altice. 60 milliards d'euros de dettes pèsent sur le groupe de Patrick Drahi. La transaction devrait être finalisée au cours de l'été, annonce Altice, et Patrick Drahi l'INRAE conservera ses autres activités du groupe, à savoir SFR et d'autres plus petites entreprises dans les télécoms. De son côté, le milliardaire Rodolphe Saadé parvient par cette opération à étendre son empire médiatique. En 2022, il a déjà repris le groupe de presse quotidienne régionale La Provence. Il rachète ensuite La Tribune un an plus tard, à partir de laquelle est fondé le quotidien La Tribune Dimanche à l'automne 2023. Avec le rachat de BFM TV, Rodolphe Saadé confirme son ambition de constituer un groupe de presse ancré dans les territoires en amont de la prochaine élection présidentielle. La chaîne compte 11 déclinaisons régionales, les BFM Régions, et par cette opération, il change aussi de dimension, puisque BFM TV est la chaîne numéro 1 de l'information continue en France, désormais de plus en plus aux prises avec CNews, et RMC détient un public fidèle, notamment sur sa déclinaison sportive avec l'After Foot, le podcast le plus écouté de l'année passée. Sur l'aspect éditorial, pour le moment, le mot d'ordre est la continuité, confie une journaliste de la chaîne RMC. Les locaux, eux, restent à Paris, pas de déménagement prévu. Et pour éclaircir la situation, un CSE extraordinaire sera convoqué la semaine prochaine.
Merci Azaïs Perronin.
Vous écoutez France Culture, il est 12h46 et c'est la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Acteur principal d'un bras de fer meurtrier avec le pouvoir en place au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko est sorti hier soir de prison, de même que Bassirou Diomaye Faye, candidat à la prochaine présidentielle prévue le 24 mars. On ignore s'ils ont été relâchés en vertu de la loi d'amnistie. Quoi qu'il en soit, la libération des deux hommes, qui pour beaucoup incarne la rupture avec la présidence Macky Sall, a provoqué l'exaltation de milliers de Dakarois en liesse descendus spontanément dans les rues de la capitale.
Des explosions et des coups de feu, ont à nouveau retenti ce matin dans un hôtel de Mogadiscio.
Oui, hier soir, c'est dans un déluge de balles que des combattants Chebab ont pris d'assaut l'établissement situé près du palais présidentiel. Une attaque qui non seulement vient rompre avec fracas l'impression de calme qui s'était développée ces derniers mois en Somalie à la suite de certaines réformes sécuritaires, mais qui intervient par ailleurs en plein Ramadan, un signal de plus sans doute envoyé par ces rebelles islamistes liés à Al-Qaïda et qui depuis plus de 16 ans maintenant combattent le gouvernement fédéral. Le bateau d'aide humanitaire Open Arms, chargé de 200 tonnes de vivres, est désormais visible au large de la bande de Gaza assiégée et plus que jamais menacée d'une famine généralisée. La nuit dernière, au moins 20 personnes ont d'ailleurs été tuées et 150 autres blessées par des tirs à un point de distribution d'aide dans le nord de l'enclave. L'armée israélienne nie avoir attaqué la foule. Et puis, sans nouvelle trêve en vue après plus de 5 mois de guerre, quand bien même les pays médiateurs tentent toujours d'arracher un accord, les bombardements sur le petit territoire palestinien se poursuivent sans répit.
Et c'est donc dans ce contexte qu'un début de mouvement se fait sentir dans la politique interne palestinienne.
Oui, après la démission fin février du chef du gouvernement de l'autorité palestinienne, un nouveau Premier ministre a été nommé hier soir. Son nom, Mohamed Moustapha, 69 ans, un économiste fidèle au président Mahmoud Abbas. Son portrait est signé Alice Froussard.
C'est un homme politique, mais davantage un économiste. Mohamed Moustapha, 69 ans, était à la tête du fonds d'investissement palestinien. Il a travaillé presque 15 ans à la Banque mondiale à Washington. Il connaît les bailleurs, il a les références en termes de reconstruction. Il est surtout le conseiller principal de Mahmoud Abbas pour les affaires économiques depuis son élection en 2005. Les deux hommes sont très proches, une manière pour le président palestinien, estime certains observateurs, de reprendre la main au moment où son autorité est de plus en plus remise en cause. Car Mohamed Moustapha est surtout un technocrate, très critiqué par la population palestinienne. Il ne fait pas d'ombre politique et il doit incarner cette autorité palestinienne revitalisée et plus inclusive, chère aux États-Unis. Cela ne changera pas grand-chose et cela ne répondra pas aux urgences du moment, explique un analyste politique, à savoir celle de la représentativité du pouvoir en place, de sa légitimité, de sa corruption, car Mahmoud Abbas reste en place et le nom de Mohamed Moustapha est cité dans le vaste scandale financier des Panama Papers.
Après 3 jours d'une accalmie relative, des tirs ont à nouveau été entendus à Port-au-Prince, et ce alors même que les tractations sur la création d'autorités de transition en Haïti se poursuivent pour tenter de sortir le pays de sa profonde crise politique et sécuritaire. Enfin, les députés espagnols ont fini par voter hier la loi d'amnistie controversée pour les indépendantistes catalans condamnés ou poursuivis pour la tentative de sécession avortée de 2017. Le texte doit toutefois maintenant être soumis au Sénat, contrôlé par la droite, farouchement opposé à cette mesure et qui a promis de retarder le plus possible son examen. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi perturbé sur les deux tiers nord du pays, avec notamment des averses qui pourront tourner à l'orage. En revanche, le soleil résistera au sud. Quant aux températures, elles restent douces, comprises entre 13 et 21 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumé. À 18h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Balu pour le prochain journal de la rédaction.